Et la gagnante pour le journal de 7h est Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Gérald Darmanin promet des sanctions pour les policiers qui déconnent. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, invité hier soir sur France 2. Après les images sur l'évacuation violente de plusieurs migrants, place de la République à Paris lundi, et ce tabassage par des policiers d'un producteur de musique noire toujours dans la capitale.
Des scènes qui ont choqué sur les réseaux sociaux et au-delà, des scènes que l'on n'aurait pas vues, disent les syndicats de journalistes si la loi sur la sécurité globale était en vigueur. Ils demandent son retrait pur et simple.
Quand Jean Castex, lui, veut créer une commission indépendante pour réécrire l'article 24 qui propose de flouter les visages des forces de l'ordre. Le Premier ministre sur le front social, également 900 euros par mois, garantis pour les travailleurs précaires. Des miettes pour les plus pauvres, répond l'Observatoire des inégalités, vous l'entendrez.
Cet observatoire a publié hier un rapport montrant que la pandémie et la crise économique aggravent la précarité des moins de 30 ans.
Et dans ce journal, nous irons à la rencontre de ces jeunes sans emploi ni formation accompagnés à Vitry-sur-Seine en région parisienne.
Et dans une dizaine de minutes, Catherine, eh bien, ça sera la radiographie du coronavirus avec un certain Nicolas Martin.
Il va devoir s'expliquer lundi devant les députés après les violences qui ont entaché l'action des forces de l'ordre ces derniers jours. Mais déjà, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a répondu hier aux questions du 20h de France 2 sur le passage à tabac d'un producteur noir, insulté également par des policiers le week-end dernier dans le 17e arrondissement de Paris. Et puis, interrogé sur l'évacuation violente de plusieurs migrants, place de la République, toujours à Paris lundi soir. Gérald Darmanin, premier flic de France, a tenté de trouver un équilibre hier soir entre le plein soutien aux forces de l'ordre et la condamnation de ceux qui salissent l'uniforme, Rosalie Lafarge.
La position du ministre de l'Intérieur tient en quelques mots.
Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens sans faille. Mais lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés.
Et Gérald Darmanin promet d'ailleurs des sanctions pour les policiers impliqués dans le passage à tabac d'un producteur de musique à Paris, policier pour l'instant suspendu.
Dès que les faits seront établis par la justice, puisqu'elle est saisie, je demanderai la révocation de ces policiers. Ils ont sali l'uniforme de la République. Et si, encore une fois, la justice démontre en effet ces faits qui font peu de doutes, alors oui, ils ne devront plus porter cet uniforme, ils seront révoqués de la police nationale.
Soutenir fermement, condamner fermement, tel semble être le credo du locataire de la place Beauvau qui compte bien assumer sa fonction. Alors à ceux qui, à gauche notamment, demandent la démission du préfet de police de Paris, le ministre répond.
Moi, je ne suis pas homme qui recherche des fusibles ou des boucs émissaires. Le préfet l'Allemand, c'est un préfet qui exerce une mission difficile. Et je souhaite qu'il continue d'exercer cette mission.
Gérald Darmanin l'assure, quand il y a des faits, les décisions sont prises. Et c'est valable aussi pour l'évacuation controversée de la place de la République, lundi soir, toujours à Paris, souligne le ministre. Mais attention.
Moi, je pense qu'il ne faut pas juger toujours dans l'émotion.
Et même si les images se sont révélées assez cruciales dans les deux affaires de la semaine, Gérald Darmanin n'entend pas abandonner l'article 24 de la loi Sécurité Globale, celui qui punit la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre. En revanche, il consent à sa réécriture si nécessaire et annonce pour cela la création d'une commission réunissant magistrats, journalistes et policiers.
Mais ce que demande un grand nombre de syndicats de journalistes, c'est le retrait pur et simple du texte. Les représentants des principaux syndicats et des sociétés de journalistes ont refusé de se rendre à Matignon hier après-midi pour échanger avec Jean Castex sur cette loi de sécurité globale. Après une réunion qui avait déjà tourné au vinaigre, c'était en début de semaine, cette fois avec Gérald Darmanin. Des tensions persistantes avec le gouvernement que nous explique Emmanuel Vire, secrétaire général du SNJ-CGT.
C'est d'ailleurs ce que j'ai dit moi-même à Monsieur Darmanin lundi dernier. Les journalistes en France n'ont pas besoin d'une lettre d'amour dans le JDD de Monsieur Castaner. Les journalistes ont réellement besoin de preuves d'amour, je dirais. Quand on voit la situation dans les autres grands pays européens, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Grande-Bretagne, jamais nous ne rencontrons ces problèmes que nous vivons aujourd'hui en France. Que ce soit le travail des journalistes dans les manifestations, que ce soit l'ensemble de lois liberticides, d'abord la loi sur le secret des affaires, la loi fake news, maintenant la PPL, le schéma de maintien de l'ordre, les pressions aussi sur les journalistes en les convoquant à l'IGPN pour essayer de connaître leurs sources. Enfin voilà, ça fait plusieurs années que les journalistes en France se sentent insécurisés. Et c'est ça qu'il faut que le pouvoir politique comprenne. Et ça n'a pas commencé avec le président Macron. Et là, il me semble que cet acte très fort de refuser un rendez-vous avec Monsieur le Premier ministre, mais de tous les représentants journalistes, ce n'est pas que les syndicats, les sociétés de journalistes aussi ont refusé ce rendez-vous. montre bien qu'il y a vraiment une crise de confiance qui là a atteint un point de non-retour, et il faut absolument que le pouvoir politique et le pouvoir actuel entendent les revendications des journalistes.
Emmanuel Vierre, à la tête du syndicat national des journalistes CGT, il répondait à Éric Chavroux. Des revendications relayées par l'opposition de gauche. Haro également sur l'IGPN. Il faut réformer la police des polices. Cette instance où les policiers accusés de violences policières ne sont jugés que par leurs pairs. Il faut cette réforme, déclare d'une même voix ou presque la France insoumise, le Parti communiste, les écologistes, le Parti socialiste. Ils demandent tous davantage d'indépendance. À noter, à midi et demi sur France Culture. Dans le journal de la rédaction, Thomas Cluzel recevra Stella Dupont, députée LREM, qui a voté contre la loi dite de sécurité globale.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Jean Castex veut garantir 900 euros par mois pour les travailleurs précaires.
Les saisonniers, les intermittents ou les extras de l'hôtellerie restauration, ceux qui travaillaient beaucoup l'an dernier mais qui sont aujourd'hui pénalisés par la pandémie. 400 000 personnes seront ainsi aidées entre novembre et février prochain, dont 70 000 jeunes. Mais ce ne sont que des miettes pour les plus pauvres, selon Louis Morin, à la tête de l'Observatoire des inégalités. Selon un rapport publié hier, la crise économique engendrée par le coronavirus aggrave la précarité des moins de 30 ans. Ils représentaient déjà près de la moitié des pauvres en France. Louis Morin.
Ce qui ressort, c'est, premier point, on était depuis 2015 plutôt dans une phase de baisse de chômage, alors que la pauvreté, elle, n'évolue pas. Et ça, c'est un étonnement. C'est-à-dire que la reprise était trop lente pour que ça produise un effet important sur la pauvreté, en partie parce que on crée des emplois bas de gamme, faiblement rémunérés et très précaires. Deuxième point, c'est l'ampleur des difficultés des populations jeunes, qu'on répète d'année en année, et c'est pour ça qu'on a voulu faire un éclairage complet. À l'intérieur des jeunes, il y a des écarts sociaux qui sont très important, suivant les milieux, suivant les diplômes, et puis aussi suivant l'âge. C'est pas pareil d'avoir 18 ans et d'avoir 25 ans. Il y a des jeunes qui sont sortis de l'école depuis très longtemps et qui galèrent de stage en petit boulot, et le jour où ils n'ont plus rien, parce qu'ils n'ont pas assez cotisé, ils ne se retrouvent sans aucune allocation. Ça, c'est pour moi un des points noirs. Puis enfin, ce qu'on dit en même temps aussi depuis très longtemps, c'est les doubles discours, la compassion que montrent les autorités publiques officiellement, et puis de l'autre côté, les faibles moyens, on l'a bien vu avec le plan de relance, qui sont accordés pour ceux qui ont le moins. Donc il y a tout de même une forme d'hypocrisie sociale pour moi qui est assez forte.
Louis Morin, le directeur de l'Observatoire des inégalités, en parlait. Pour ceux qui ont entre 16 et 25 ans, sans emploi ni formation, en situation de précarité financière, la garantie jeune, qui propose une allocation mensuelle de 490 euros maximum, sera étendue l'an prochain à 200 000 personnes. Jean Castex l'a annoncé hier. Et la mission locale de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, accueille déjà 270 jeunes dans ce dispositif. Catherine Pétillon s'est rendue sur place.
Sur ce site-là, vous pourrez avoir les infos sur les dernières mesures.
Conseil collectif, accompagnement individuel et une allocation, voilà ce que propose la garantie jeune. Mathieu, 22 ans, vient d'intégrer celle de la mission locale de Vitry.
On a fait des CV, lettres de motivation. On a regardé les offres d'emploi, des domaines la plupart un peu compliqués, entre guillemets. Donc on a regardé aussi des plans B. Moi, je fais du foot. Je suis passé par des centres de formation. Et là, les championnats, ils sont arrêtés. Je vois un peu, entre guillemets, ce que je peux faire, hormis le foot. J'espère toujours rester dans le domaine du sport.
Mathieu aimerait faire une formation de coach sportif, mais les places sont rares. Dans cette mission locale, 37% de jeunes en moins que l'an dernier accèdent à un premier emploi, déplore le directeur Florent Michelin. Principaux métiers recherchés par les jeunes qui l'accompagnent, les transports, la vente, l'hôtellerie et le tourisme, des secteurs mis à l'arrêt par la crise.
Il n'y a aucune embauche, ce qui est une catastrophe pour l'emploi des jeunes. Ce qu'il faut, c'est leur proposer déjà de sécuriser leur parcours financier, puisque contrairement à des jeunes qui sont issus de milieux où le foyer n'est pas en difficulté dans son modèle économique, ces jeunes-là travaillaient pour redonner une partie de leurs revenus pour soutenir leur foyer sur le plan financier.
Parmi les jeunes en difficulté, il y a aussi ceux, nombreux désormais, qui peinent à trouver une alternance. C'est le cas de Calwin. À 19 ans, il veut faire une alternance en management des unités commerciales, mais ce n'est pas facile.
J'ai l'école, c'est juste que j'ai pas l'entreprise. Il n'y a aucun patron qui veut m'accepter vu qu'il y a le Covid.
Ils vous disent quoi ?
On n'a pas de place ou à cause du Covid, on ne peut pas prendre des personnes extérieures. Voilà.
Et vous avez combien de temps pour trouver l'entreprise hein ?
Jusqu'à janvier.
S'il ne trouve pas, il devra changer de projet. La garantie jeune dure un an. Les effets de la crise économique sur les jeunes les moins diplômés seront, eux, inévitablement durables.
Un dossier signé Catherine Pétillon. L'Allemagne prévoit d'emprunter près de 180 milliards d'euros l'an prochain, près de deux fois plus que ce qui était prévu initialement, alors que Berlin étend ses mesures d'aide pour atténuer l'impact de la pandémie de coronavirus sur la plus grande économie européenne. L'Allemagne qui franchit aujourd'hui le seuil du million de personnes testées positives au Covid-19. Au Burkina Faso, dans ce pays du Sahel pauvre et enclavé, rattrapé par les attentats djihadistes depuis 2015 et la destitution de Blaise Compaoré, le président Roch Marc Christian Kabore a réussi son pari d'obtenir un second mandat dès le premier tour. L'opposition qu'il accuse d'immobilisme face aux attaques djihadistes qui ont fait plus d'un millier de morts et poussé plus d'un million de personnes à partir de chez elles. L'opposition donc se réserve le droit de contester les résultats. Arrêtons-nous à présent sur une polémique douloureuse en Israël. Le ministre de l'Enseignement, membre du Likoud, le parti de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a proposé un homme controversé pour diriger Yad Vashem, le mémorial et le centre de recherche et d'archives de la Shoah à Jérusalem. Il s'agit d'un colon d'extrême droite accusé de racisme anti-arabe. Polémique suivie à Jérusalem par Frédéric Mettezo.
Des centaines d'Israéliens anonymes et des juifs du monde entier, des universitaires, des rabbins, des chercheurs, des rescapés de la Shoah ont déjà signé une pétition. Colette Avital, ancienne ministre travailliste née en Roumanie il y a 80 ans, préside le Centre des organisations des survivants en Israël, à la pointe de la mobilisation.
Il a par le passé déclaré qu'il faut chasser des Palestiniens des territoires et qu'il faut aussi les transférer ailleurs et que les Arabes qui sont des citoyens de l'État d'Israël sont une cinquième colonne et dont on devrait s'en défaire aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui représente un point de vue tolérant et qui malheureusement peut être considéré comme raciste.
Durant la première intifada, l'officier Efi Eitam avait aussi donné l'ordre à ses soldats de battre à mort un Palestinien et contre l'avis de la Cour suprême, il avait défendu l'utilisation de boucliers humains palestiniens par l'armée. Au-delà de ces exactions, Colette Avital estime qu'il n'a pas le profil requis.
Yad Vashem est devenu une source parce qu'il a gagné sa crédibilité académique. Il n'a simplement pas le profil, d'autant plus que nous devons faire face de nos jours à une tendance, surtout dans les pays de l'Est, comme la Pologne et autres, de réécrire l'histoire. On ne peut pas nommer quelqu'un dont certains de ces gens qui nient l'histoire peuvent dire « Mais oui, mais qui êtes-vous? Comment savez-vous et quelles sont vos compétences ?»
Adversaires et partisans d'Efi Eitam dénoncent une politisation de la Shoah. Paralysé par la crise politique, le gouvernement de coalition n'a toujours pas validé sa nomination.
Frédéric Mettezo à Jérusalem pour France Culture. Quelques mots du temps de ce vendredi 27 novembre, couvert, voire pluvieux sur une grande partie du pays. Au meilleur de la journée, il fera entre 5 et 11 degrés des Hauts-de-France jusqu'au nord de l'Alsace, comptez de 9 à 15 de la Normandie jusqu'au centre, 13 à 18 degrés partout ailleurs, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, la radiographie du coronavirus.